L'invité de la rédaction avec Charlie Pless sur Radio Alpa.
Bonjour Fabien Esteliano.
Bonjour.
Alors vous êtes vice-président et référent de la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques pour le département de la Sarthe, ou FCPE 72. Vous êtes à notre micro pour nous faire part du positionnement de la FCPE de la Sarthe vis-à-vis de plusieurs choix du gouvernement Barnier. Alors d'abord, il faut rappeler que ce positionnement reflète les résultats d'un vote des parents d'élèves, vote des élections des parents d'élèves. Quel rapport entretiennent en fait les parents d'élèves et la FCPE concrètement ?
Alors, on est la première fédération de parents d'élèves. Lors des élections de début octobre, tous les parents d'élèves de tous les établissements votent. Et nous arrivons en Sarthe comme la fédération première pour représenter les parents et pour les représenter dans plusieurs instances.
Et alors, quels résultats sont ressortis de ces élections début octobre ?
Alors là, on n'a pas lissé avec certitude tout cela, mais les remontées sont toujours très positives. On a même des conseils locaux nouveaux qui se mettent en place.
Alors, dans un communiqué de presse du 14 octobre, la FCPE, je cite, tire la sonnette d'alarme à propos de deux décisions du gouvernement Barnier. Alors, dans les faits, une décision du gouvernement et une décision du Sénat que vous avez regroupées sous l'adjectif décision gouvernementale. Alors, quelles sont ces décisions ?
Alors, premièrement, donc, le gouvernement a bien décidé, pour l'instant, hein, de proposer un budget avec 4000 postes en moins à l'éducation nationale. Donc ça, évidemment, c'est un rejet plein de notre part. Et puis, on a voulu également mettre en valeur le fait qu'au Sénat, la majorité aujourd'hui, en lien avec le Premier ministre, a voté également contre une proposition d'intégration des caractéristiques sociales dans la réflexion de l'éducation nationale.
Alors, le gouvernement a justifié la suppression des 4000 postes d'enseignants en raison d'une baisse du nombre d'élèves, annoncée à 97 000 élèves en moins à la rentrée 2025. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument ?
Alors, on a des chiffres relativement dramatiques quand on regarde les données PISA, lorsqu'on regarde les données internationales sur l'état de la situation en France de l'éducation nationale. Ce qui fait qu'évidemment, on se dit non, on peut pas croire que ce qui compte aujourd'hui, c'est de retirer des postes. Ce que l'on se dit, c'est profitons des élèves en moins pour que ces postes soient utilisés dans des bonnes conditions. Donc 4000 postes, c'est quand même énorme en moins. Depuis 4000, c'est ça.
Oui, c'est l'occasion peut-être d'avoir des classes moins surchargées, par exemple.
Oui, complètement. L'an dernier, par exemple, si on reprend, on était autour entre 1500 et 2000 postes en moins. Et 4000, ça fait à peu près 2 ans de gouvernement sous la gouvernance Macron. Ça fait beaucoup, beaucoup de postes en moins. Et si on reprend Sarthe, par exemple, l'an dernier, c'était 50 fermetures quasiment. De classes. Donc on peut imaginer qu'avec 2 fois plus, voire 3 fois plus, le nombre de classes qui pourraient fermer en Sarthe.
Donc ça fait partie des conséquences que craint la FCPE vis-à-vis de ces suppressions de postes. Est-ce qu'il y en a d'autres ?
Oui, parce que dans le fond, on sent bien que ça veut dire aussi plus de difficultés à avoir des remplacements, plus de difficultés à avoir tout type de poste, et puis aussi dénigrer le métier d'enseignant qui va faire que ce sera difficile d'avoir à long terme des bonnes conditions d'enseignement.
Est-ce que finalement, des profs en moins, c'est pas in fine aussi de l'inégalité en plus ?
C'est évident. C'est évident parce qu'on voit bien que lorsqu'on a des enseignants en moins, c'est dans les écoles les plus... là où il y a le moins de parents actifs, par exemple, où souvent... les remplaçants ne sont pas remis rapidement. Et ça, si vous avez des parents qui se bougent, et avec notre fédération, les parents souvent se bougent, on retrouve souvent des remplaçants. Mais là où les parents sont moins présents, et il faut dire la vérité, dans les écoles où il y a des difficultés sociales, les parents sont moins actifs dans les associations, moins présents dans les conseils d'école, là, il y a moins de parents pour se bouger. Donc c'est évident, c'est ce que préfère l'académie, c'est qu'il y ait moins de parents actifs pour pouvoir avoir moins d'agitation.
Oui, donc vous incitez les parents à se mobiliser.
Évidemment, il faut toujours, toujours, toujours dire quand ça ne va pas. Et aujourd'hui, ça ne va vraiment pas, donc il faut aussi être clair. Et ça a toujours fait avancer les choses collectivement.
Alors, dès aujourd'hui, ça ne va pas. Est-ce que la Sarthe dispose suffisamment de profs aujourd'hui ou pas alors ?
Ah non, il y a évidemment déjà des établissements dans lesquels les remplacements ne sont pas actés. On avait des cas l'an dernier, par exemple, en collège sur de l'allemand. Et là, cette année, on en a en lycée sur de l'allemand également. Donc, il y a des domaines dans lesquels vraiment les enseignants ne sont pas là. Donc, on peut parler de l'allemand, mais on peut parler également du français, des mathématiques dans certains établissements. Au mois d'octobre, c'est souvent le dernier moment où les gens sont remplacés. Et à partir du mois de novembre, commencent les grandes difficultés pour les familles et pour les enfants.
Alors, vous recevez des craintes concrètes de la part des parents d'élèves vis-à-vis de cette mesure qui vise donc à supprimer 4 000 postes d'enseignants ?
Alors, la vraie crainte, c'est qu'on continue à voir la dégradation qu'on a pu voir dans certains dispositifs. Lorsqu'on voit, je vous disais, que les résultats internationaux fonctionnent, montrent que la France va mal dans son éducation nationale, les parents s'inquiètent de cela. Les parents s'inquiètent aussi parce qu'ils voient de l'enseignement privé qui est financé par l'argent public et là où eux voudraient avoir cet argent pour leurs écoles. Donc là aussi, ils s'inquiètent et ils savent que des difficultés arrivent. Et puis tout cela, je le répète, quand on voit que son gamin va 2-3 heures en moins par semaine en collège parce qu'il n'y a pas d'enseignant qui remplace l'enseignant de sport, l'enseignant de sciences, ça pose un vrai problème. Et ça, c'est déjà des remontées qu'on a tous les jours.
Oui, d'ailleurs, dans le communiqué de presse, la FCPE emploie des mots forts. Elle désigne un abandon dans des abîmes inimaginables en résultats PISA. Alors, les résultats PISA, c'est une étude qui mesure l'efficacité des systèmes éducatifs. Concrètement, comment se caractérise cet abandon ?
Alors, on voit, par exemple, que de plus en plus, les enfants en difficulté dans des situations économiques difficiles, ont également des difficultés à l'école. Et à chaque instant de ces évaluations internationales ou de ces évaluations globalement, on voit que ça fonctionne mal pour les plus pauvres, en plus. Et cette étude PISA montre qu'en plus, pour les plus riches, ça déconne aussi. Donc là, on voit bien que l'école va mal. De mémoire, je crois que c'est 20% d'échecs en plus sur le PISA pour les populations modestes et presque 28%, je crois, pour les populations favorisées. Donc tout le monde souffre du système éducatif actuel.
Alors comment l'expliquer quand même ce rapport entre la classe sociale et les difficultés à l'école ?
Il existe, c'était le deuxième sujet, je m'excuse de glisser vers celui-ci, mais lorsque au Sénat a été proposée l'intégration donc de l'IPS, donc de l'indice de position sociale ou de positionnement social, l'idée c'était justement de dire faisons attention au fait qu'il y a des familles qui ont une position sociale qui parfois ne permet pas ou permet moins statistiquement d'aider l'enfant dans la réussite scolaire. Et cet indice-là, il est en fonction évidemment des revenus, mais aussi du type de profession. Je ne sais plus, j'avais noté quelque part il y a quelques jours, je crois que les chiffres des familles, d'un parent par exemple qui serait enseignant de mémoire, il a son enfant a quelque chose comme 99% de chances d'obtenir le DNB. Là, c'est ça, 99%. Alors que les enfants d'inactifs ont, par exemple, 78% d'obtenir leur brevet des collèges. Donc, vous voyez, déjà, la situation sociale des familles ont des résonances sur les résultats scolaires.
Oui, donc, d'où votre incompréhension du rejet du Sénat d'une loi sur la mixité sociale et scolaire. Que prévoyait cette loi, en fait ?
Alors, l'idée était de pouvoir intégrer dans la réflexion des constitutions de dotation, donc les heures qu'on donne dans les établissements, ou les nombres de personnel qu'on donne dans les établissements, ou le nombre d'élèves par classe, par exemple. Ces choses-là auraient pu être calculées sur des bases de catégorie socio-professionnelle ou sur la base de cet indice de positionnement social.
D'accord, c'est ça l'indice de positionnement social, d'accord. Et qu'est-ce que ça aurait donné en fait comme résultat cet indice-là ? Enfin, qu'est-ce qu'on en attend en fait ?
Un truc tout bête, c'est, je crois que de mémoire, nous on est à 106 l'indice en Pays de la Loire. Si notre gamin est dans une école où l'indice il est de 96, donc 10 points de moins, il a par exemple plus de 15% de chances de moins de passer en seconde générale et technologique. Donc, ça veut dire que si on met moins d'élèves dans ces classes qui ont un IPS inférieur, on pourrait rééquilibrer les choses parce que plus il y a l'accompagnement des enseignants, plus c'est facile aussi d'aider à avoir des meilleurs résultats.
Mais donc cette loi, elle aurait permis d'éviter ou d'amoindrir la ségrégation scolaire, c'est bien ça ? Mais alors,
exactement.
De quoi est-ce qu'on parle exactement quand on parle de ségrégation scolaire, en fait ?
Alors, l'idée de la ségrégation scolaire, c'est de se dire que une école qui n'a pas de réussite et qui, en plus, est dans un secteur géographique difficile, risque de s'enfoncer vers plus de difficultés et plus d'élèves en difficulté qui resteraient. Et ceux qui sont peut-être en réussite plus forte pourraient avoir peur de rester et partiraient dans d'autres établissements, soit établissements privés, soit dans des établissements publics d'une zone proche.
Est-ce que le contre-coup possible à cette ségrégation scolaire, ce n'est pas de donner lieu à des formes de repli sur soi, peut-être identitaire ou communautaire ?
Alors, sur le caractère communautaire et identitaire, il faut le voir plutôt sous l'angle, je crois, sous l'angle véritablement de une catégorie sociale vers laquelle on pourrait s'enfermer. Je ne suis pas sûr qu'on s'enfermerait systématiquement vers une catégorie ethnique ou religieuse, par exemple, même si l'enseignement privé en France est confessionnel très majoritairement. Donc il y a quand même de cela, on ne va pas se mentir.
Oui, il n'y a pas un lien possible, vous pensez, entre justement cet abandon qu'on évoquait tout à l'heure et qui pourrait produire cette défiance vis-à-vis de la laïcité qui est invoquée maintenant à l'école. On se souvient, enfin, on a récemment rendu hommage à Samuel Paty et Dominique Bernard. C'est vrai que peut-être il y a un problème de respect de la laïcité à l'école, ou en tout cas, voilà, une défiance qui se nourrit. Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut être lié justement à cet abandon de l'école publique ?
Alors, c'est évident qu'à partir du moment où un pays va mal, son éducation va mal, derrière, on a des répercussions sur la vie des citoyens. Et là, je pense sincèrement que beaucoup plus grave que des personnes qui se sont attaquées à l'école, je pense que ce sont tout simplement des personnes qui s'attaquent tout simplement par terrorisme à tout type de secteur du pays. Donc ça peut être l'école comme ailleurs. Mais je crois que l'école, oui, est vecteur d'enseignement avant, pour que ça n'arrive jamais. Mais je crois que c'est presque juste une illustration de plus.
D'accord.
Du problème. Mais sincèrement, réglons les problèmes à l'école et il n'y aura pas de place pour les violences et le terrorisme. Parce qu'on aura éduqué les gens à ne pas penser par la terreur.
Alors cet abandon qu'on évoquait tout à l'heure, la FCPE le place dans la ligne des mandats de Jean-Michel Blanquer, Gabriel Attal et Nicole Belloubet. Au poste de ministre de l'Éducation nationale, donc. En quoi ces ministres successifs se sont-ils inscrits en continuité ? Et en quoi cette continuité est-elle nuisible aux élèves ?
On a... Jean-Michel Blanquer a démarré sur une politique hyper libérale. Vraiment une volonté de diminuer le nombre de postes, standardiser la manière d'enseigner et perdre la capacité de dialogue avec la base, qu'est l'enseignant. Et donc ça a perduré tout au long du temps. Gabriel Attal, par exemple, a fait beaucoup de communication et a très peu, en réalité, eu des actions de fond. Et c'est intéressant parce que, dans le fond, Madame Belloubet a fait à peu près la même chose, sans vrai pouvoir. On a bien compris que, finalement, tout le monde avait suivi avec des personnels ministériels de l'époque Blanquer. Et puis, le manque de pouvoir, il a existé chez les deux autres ministres. Parce qu'il y en a deux autres qu'on n'a pas nommés, Madame Oudéa Castéra et Monsieur Ndiaye. Et pourquoi ? Parce qu'ils n'ont fait que peu de choses. Mais souvent, il y a eu de la communication et rarement des réalités d'action.
Alors, on l'a déjà un peu évoqué. Est-ce que la FCPE considère qu'il y a, de la part du gouvernement, une différence de traitement entre l'école publique et l'école privée ?
Bien sûr. C'est-à-dire que ce n'est pas normal aujourd'hui qu'on ne donne pas l'argent public aux établissements publics lorsqu'on voit qu'on est en souffrance économiquement. On ne peut pas faire perdurer que le système continue à fonctionner en payant l'école privée. Je crois que c'est 17% de mémoire. La part du privé, c'est 17%. Tout à l'heure, on parlait de l'IPS, donc de ces familles plus ou moins modestes, plus ou moins proches de l'éducation. Eh bien, sur ces 17% là de la part du privé, le privé a gagné 14 points depuis 2001 en famille favorisée et aisée. Donc ça veut dire qu'on a des familles qui paient une école, derrière l'État va payer cette école, et tout ça pour les populations qui ont le moins de difficultés à pouvoir être enseignées et comprendre d'un point de vue statistique. Donc, statistiquement, ça n'est pas logique.
Et dans une tribune du Monde, Martin Raffé, président de la FCPE de Paris, accuse le ministère de l'Éducation nationale d'un manque de transparence et d'un manque de contrôle quant au financement de ces écoles privées. Est-ce que la transparence de ces financements vous paraît être une étape nécessaire vers une revalorisation de l'école publique ?
Mais bien sûr. Pourquoi on parle de... C'est évidemment toujours très important que les parents d'élèves parlent. Et pourquoi nous, on parle toujours de ce besoin de transparence ? C'est que tout simplement... Il y a un millefeuille de responsabilités. Et on sait que l'État, par exemple, va donner de l'argent aux écoles privées, mais c'est la même chose de chacune des collectivités territoriales qui est en lien ensuite. Donc la municipalité va donner aux écoles privées du premier degré. Les collèges font qu'on va donner, le département va donner aux écoles, aux collèges privés de l'argent. La même chose, la région va donner et on se retrouve avec quelque chose d'assez occulte. Ce qui fait que, de mémoire, la semaine dernière, en Maine-et-Loire, il y a eu justement une décision de justice qui a fait reculer la région sur une de ses dotations aux établissements privés.
Merci beaucoup Fabien Esteliano, vice-président de la FCPE 72. Merci d'être venu à notre micro.
Merci.
Et à bientôt sur notre antenne.